Alors, faut juste que je retrouve mon message quelque part par là. Donc, bonjour à celles et ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Il n'y a pas beaucoup de slides, mais il y aura au moins les passages bibliques. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet qui m'a travaillé après avoir lu quelque chose. C'est un pasteur, je suis tombé récemment sur le texte d'un pasteur américain qui expliquait en fait avoir appris récemment que le fils d'un de ses amis pasteurs également s'était complètement éloigné de Dieu depuis qu'il était parti faire ses études à l'université. Et s'est rendu compte en regardant son profil, parce qu'il a fait son enquête, parce qu'ils se connaissent très bien, c'est des amis très proches, et il s'est rendu compte que c'est à partir du moment où il a commencé à avoir des cours de psychologie, etc., de philosophie, pas de psychologie. Et en fait, il s'est posé la question, mais pourquoi un des enfants qui était le meilleur à l'école du dimanche, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a même des concours de est-ce que tu connais ce verset par cœur, ce chapitre par cœur, ça passe même à la télé, etc. Donc il y a des écoles du dimanche où c'est costaud. Et les enfants ressortent de là, ils connaissent la Bible par cœur, ils connaissent les personnages par cœur, ils connaissent les histoires par cœur. Mais en fait, il s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, ses enfants, et il a posé la question à ses propres enfants pour s'en rendre compte, c'est que ses enfants connaissaient l'histoire par cœur, ils connaissaient les personnages, ce que Dieu avait fait, etc. Mais ils ne savaient pas pourquoi ils l'avaient fait. Et en fait, en posant la question à ses propres enfants, il s'est rendu compte qu'en leur demandant « Non, mais est-ce que tu sais pourquoi Jésus a fait ci, a fait ça, etc. Et » en fait, il s'est rendu compte que non, il ne le savait pas. Et moi, ça m'a vraiment travaillé. Et puis, entre-temps, il y a eu pas mal de choses, des gens qui... On a eu la loi sur la fin de vie, là, récemment, qui a été votée, malheureusement. Et on se pose toujours la question, pourquoi ? Et j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il y en a qui disaient « Ah, vous avez prié par rapport à le lien qu'on vous avait donné, prier pour un député. » Et il y en a qui disaient « Ah, vous avez eu beau prier, comme quoi, il ne s'est rien passé. » Et à ce moment-là, on a la première question, en tout cas moi, qui m'est venue, c'est « Mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que ce n'est pas passé alors qu'il y a des chrétiens qui se sont levés, alors qu'il y a eu de l'intercession qui s'est mise en place, alors qu'il y a des mouvements qui ont été reconnus et reconnus, et qu'on finalement, avant, ces choses-là se passaient dans des réseaux d'églises, etc. Mais là, c'était visible. Là, on en parlait, etc. Et il y a toujours ce petit pourquoi qui vient. Et finalement, ce pourquoi, je me rends compte qu'on devrait tous l'avoir dans nos vies. On devrait tous se le reposer régulièrement. Pourquoi est-ce que je fais ci ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je crois en ci ? Pourquoi est-ce que je crois en ça ? Des fois, on fait des choses depuis des années, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il y a un moment donné où j'ai décidé de le faire comme ci, comme ça. La louange, j'ai décidé de la faire comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça. Et pourquoi est-ce que je continue dans ce fonctionnement ? L'idée, ce n'est pas de se remettre en question sans arrêt. C'est juste de savoir pourquoi je le fais. Donc, mon message ce matin, ce sera sur pourquoi. Pourquoi ? Et en fait, pourquoi, c'est des questions que peuvent se poser des croyants, mais aussi des non-croyants. Et c'est important de se rendre compte qu'il y a plein de questions que peuvent se poser les non-croyants. Et finalement... Quand ils se posent des questions, est-ce que ce n'est pas juste parce qu'ils cherchent la réponse ? Parce que des fois, on voit ça comme une attaque. « Ah, mais pourquoi ton Dieu, il agit pas comme ci, comme ça ? Ah, mais pourquoi il y a autant de mal sur terre, etc. » Et c'est des questions qui reviennent régulièrement. Et nous, des fois, on prend ça pour une attaque, en disant, finalement, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu n'agit pas, qu'il n'agit jamais. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'ils se disent, « Mais en fait, pourquoi est-ce que ça ne change pas ?» Et pourquoi il se pose la question aussi ? C'est que finalement, il y a quelque chose en eux qui dit « mais il y a quelque chose qui ne va pas ».
Je n'ai pas du tout fait mon introduction, mais c'est très bien.
Pourquoi ? En tout cas, le pourquoi doit faire partie intégrante de notre vie. On peut supporter un quoi si on a un pourquoi, si on a le sens de ce que l'on est en train de vivre. Tu peux souffrir, et si tu as le sens, si tu sais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu souffres à ce moment-là, c'est souvent plus facile. On est d'accord. Des fois, on souffre, on ne sait pas pourquoi, et c'est dur. Et on se dit, mais pourquoi je vis ça? Moi, pendant des années, je me suis posé la question par rapport au diabète. Pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi si? Pourquoi je l'ai eu? Pourquoi c'est arrivé à moi et pas à un de mes frères ou de mes sœurs, etc. Bon, je sais que je bouffais du sucre à foison et ça, c'est, c'est autre chose. Mais je ne pense pas que ce soit ça l'origine. Mais j'en sais rien, finalement. Et finalement, je m'en fiche. En tout cas, on va prendre un verset. C'est Ésaïe 55, 8 à 9. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alors, une petite question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà monté un meuble IKEA?
Oui.
Moi, je suis un fan d'IKEA, mais parce que mon père y a travaillé très longtemps, donc je suis né IKEA, et il me faut ma visite à IKEA une fois par mois, ça me va très. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de monter un meuble sans notice? Et alors?
5 fois plus long.
Ou alors, il y a une partie qui n'est pas dans le bon sens parce qu'il y avait un fond et on ne peut plus mettre le fond. Ou alors, il nous reste 3 vis dans les mains. Et on ne sait pas à quoi servent ces 3 vis. Exactement. Donc finalement, c'est compliqué sans avoir le mode d'emploi. Et puis si en plus vous le faites le soir, vous vivez une crise existentielle, la nuit est pourrie, enfin, ou alors vous voulez pas vous coucher tant que vous n'avez pas terminé. Enfin voilà, comme quoi, juste le fait de pas lire un mode d'emploi, ça peut être compliqué. Mais finalement, c'est pas le meuble en soi qui est un problème. C'est pas le bois, ce sont pas les vis qui sont le problème. C'est juste que vous n'avez pas le sens du truc. Vous ne savez pas dans quel sens ça se pose. Et c'est comme ça dans la vie. On peut tout avoir, mais si on ne sait pas le sens de ce qu'on vit, il y a un problème. La vie, c'est pareil, donc. On a les pièces, les événements, les douleurs, les joies, etc. Mais sans un minimum de sens, tout penche, comme le meuble. Alors ce matin, je ne vais pas vous apprendre à avoir la notice complète de Dieu, mais on va voir qu'il en donne des bouts, qu'il en donne des morceaux. Et ça, ces bouts-là, ils changent tout. Donc, j'aurai 3 exemples de pourquoi. Je me suis dit, il faut quand même des exemples de grands pourquoi qu'on se pose. Et puis, quelles réponses on peut donner? Parce que ça peut être important aussi que si on se les pose nous-mêmes déjà, c'est important d'avoir la réponse, ou du moins de savoir pourquoi on n'a pas la réponse. Ou que l'on peut vivre sans la réponse. Ou que la réponse n'est pas celle qu'on attendait. En tout cas, le premier, je vais passer ça, hop, très bien. Le premier, je vais vous parler de pourquoi les pourquoi comptent, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Exemple, pour les parents, vous avez tous eu des enfants qui, vers 3-5 ans, posent toutes les questions du monde. Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi papa il a fait ci? Mais pourquoi maman l'a dit ça? Et en fait, ça révèle quoi? Ça révèle que l'être humain, il est câblé pour rechercher du sens. Dès le début. Il veut un sens à ce qu'il fait, à ce qu'il y a autour de lui. Il veut savoir pourquoi ça fonctionne comme ci, pourquoi ça fonctionne comme ça. Moi, j'avais un petit frère, il démontait tous mes jeux, il les démontait. Il était incapable de les remonter. Mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était de savoir comment ça fonctionnait. Et effectivement, aujourd'hui, il aime bricoler, il aime créer, il aime faire des choses. Et voilà, je pense que ça a commencé à ce moment-là. Où il a commencé à détruire tous mes jeux, mes jouets. Mais lui, ça le passionnait, ça le rendait heureux. Moi, non. Mais c'est pas grave. Je m'en suis bien sorti quand même. Mais on a tous, à un moment donné de notre vie, on a cherché du sens à ce qui était autour de nous. Et on est câblé comme ça. C'est pas un caprice d'enfant. C'est juste notre architecture intérieure. Parce qu'on est fait à l'image d'un Dieu qui raisonne, qui pense, qui réfléchit, qui parle et qui explique. Et dans la Bible, il y a plein d'endroits où Dieu explique à l'homme pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et même, il utilise la prophétie pour prévenir l'homme qui va faire ci ou qui va faire ça de telle façon. Prenez Ésaïe avec Jésus. En tout cas, dans la Bible, s'il y a un exemple de grand pourquoi auquel Dieu n'a pas donné toute la réponse à laquelle s'attendait la personne, c'est Job. Job, c'est l'exemple parfait de la Bible. Il perd tout enfant bien santé, sa première réaction n'est pas « je m'en fiche ». Dieu sait ce qu'il fait. Non. Pendant 37 chapitres, il réclame une explication à Dieu. Il veut savoir pourquoi. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis, je ne l'ai pas mis. Dans Job 31, au verset 35, « Que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. » C'est simple. Voilà. Juste à lire, il le dit lui-même. « Dieu, donne-moi ta réponse. » Et quand Dieu répond enfin, à partir de Job 38 jusqu'à 41, il donne pas l'explication attendue. Hein. Si vous regardez bien, il parle de sa grandeur, il parle des fondations de la terre, il parle de la course des étoiles, des différents animaux, il parle même du Léviathan, il parle d'animaux comme la lionne, le bouquetin, le buffle, l'autruche. Et ce qu'il lui explique, finalement, c'est que avant de savoir pourquoi il t'arrive ci ou il t'arrive ça, regarde déjà autour de toi, est-ce que tu sais comment ça fonctionne le lion, la lionne pour nourrir ses petits? Est-ce que tu sais comment fonctionne le bouquetin? Est-ce que tu sais comment fonctionne le buffle? Est-ce que tu sais comment fonctionne l'autruche? Tu veux comprendre l'univers entier avant de me faire confiance sur ta petite vie? Donc Dieu, il répond pas par une esquive. Mais en fait, il lui répond par « fais-moi confiance ». Il lui explique pourquoi il doit lui faire confiance. Et il lui parle de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il tient entre ses mains, de toute la façon dont il nourrit chaque animal. Et finalement, des fois, on n'a pas toujours le pourquoi, mais en tout cas, on a le qui, nous. Nous, on a la chance d'avoir le qui. Je vous disais, le pourquoi, on peut se le poser, et puis les non-chrétiens aussi peuvent se le poser. Et finalement, le pourquoi, c'est souvent une porte d'entrée pour l'Évangile, pour parler de Dieu. Et c'est souvent mieux, on en parlait récemment avec deux autres personnes, c'est souvent mieux quand ça vient de l'autre, en fait. Quand c'est l'autre qui vient vers toi, qui te dit, mais pourquoi c'est comme ci, comme ça? Pourquoi Jésus... Là, c'est génial. C'est génial parce que finalement, la personne te tend la main et tu as juste à tendre ta main et à y aller avec elle. Et c'est facile. Et on aimerait vivre tout ça tous les jours. On n'a pas besoin d'aller approcher telle ou telle personne parce qu'on ne sait pas comment l'approcher, comment parler de Jésus. Et on y va et ça ne se passe pas comme on voudrait. Et il n'y a pas un seul moment où on peut parler de Jésus comme on le voudrait. Mais alors, quand c'est la personne elle-même qui vient vers vous, là, c'est génial. Quand elle a des pourquoi, mais je ne comprends pas pourquoi. On n'a pas forcément la réponse, et c'est pas grave. Soyons vrais, soyons justes. Disons simplement, écoute, j'ai pas la réponse, mais je note ta question. Je vais regarder, moi, dans ma Bible, je vais regarder, puis je reviens vers toi. Et ça, faut pas qu'on hésite à le faire. Faut pas qu'on ait peur, en fait. Faut pas qu'on ait peur de se dire, s'il me pose des questions, je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Ben, c'est pas grave. On n'est pas parfait, on n'est pas humain, on est juste humain. Une autre chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, quand un non-chrétien se pose la question « mais pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi est-ce que l'on souffre ?» Finalement, c'est qu'ils vivent une répulsion face au mal. Ils vivent quelque chose face au mal, ils n'aiment pas. Il y a quelque chose, il y a une loi morale qui existe, dont ils ne se rendent pas forcément compte, mais il y a quelque chose qui existe et qui habite finalement chacun d'entre nous. Et si cette loi morale, qui est universelle finalement, tout le monde l'a, existe, c'est peut-être aussi qu'il y a un législateur universel au-dessus de cette loi. Et nous, on le connaît. On a la chance de le connaître. Et finalement, ça rejoint aussi cette image qu'on donne beaucoup de, finalement, on est tous avec un vide à l'intérieur, et ce vide, il est en forme de Jésus. Et il y en a qui le trouvent, et qui remplissent ce vide, et il y en a qui le trouvent pas, et ils essaient de le remplir avec tout, n'importe quoi. Et c'est à nous d'avoir les bonnes réponses pour tous ces gens qui cherchent et qui trouvent pas, et pas de leur rentrer dedans. L'idée, c'est pas ça. En leur disant, t'as tout faux. Ça n'a pas du tout la forme de Jésus.
J'ai pas la cravate, alors ça tombe.
Ça n'a pas la forme de Jésus, ce que tu as dans ta vie. En tout cas, la question qu'ils peuvent se poser, c'est pourquoi Dieu permet-il que l'on souffre? Et ça, c'est une des questions que je voulais prendre en exemple. Parce que peut-être qu'on peut se la poser nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a des lois horribles comme celle-ci qui vient d'être votée? Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où vous avez des détecteurs de fumée, là, chez vous. Et puis, à 3h du matin ou en pleine nuit. Et ça, souvent, ça choisit le pire moment pour se mettre en marche parce qu'il n'y a plus de piles. C'est horrible. Et puis après, vous changez les piles et vous vous dites, c'est génial. Sauf que non, parce que c'était des piles lithium, donc ça dure hyper longtemps. Mais les piles que vous avez mises, c'est pas les mêmes. Et au bout de 3-4 jours, à nouveau, ça ressonne. C'est terrible. Par contre, ce bruit terrible, s'il arrive au moment où il y a un incendie, où il y a quelque chose, eh bien, vous êtes très content que ça ait fonctionné. Et finalement, la douleur, la souffrance que l'on peut vivre, c'est exactement pareil. C'est souvent une alarme. Ce n'est pas une punition. Des fois, c'est simplement une alarme. Donc, il n'y a pas une réponse unique, en tout cas dans la Bible, par rapport à la souffrance. Il n'y a pas une réponse passe-partout par rapport à la souffrance. Parce qu'il y a autant de souffrance qu'il y a de personnes, si ce n'est plus. Parce que vous pouvez vivre des choses difficiles à des moments différents et des choses complètement différentes à des moments différents. Donc il n'y a pas de réponse toute donnée. Par contre, il y a quand même quelques petits trucs à savoir et à se rappeler. C'est que la souffrance, déjà, elle vient d'un monde cassé suite au péché originel. S'il n'y avait pas eu le péché originel, bon, peut-être qu'on ne serait pas là. Mais... Dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus ne dit pas « Vous pourriez avoir des tribulations. » Non, il dit « Vous aurez. » Il ne se cache pas. La vie d'un chrétien n'est pas toute rose. Mais par contre, la souffrance que l'on vit, ce n'est pas la preuve que Dieu est absent. C'est la preuve que le monde, lui, va mal. Dieu, il est présent dans notre souffrance. Il veut être présent. Vous avez la souffrance qui, aussi, elle produit quelque chose. Dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il n'y a pas écrit juste les bonnes choses, il y a écrit toute chose. Donc ça peut être des, comme on pense, mauvaises ou des bonnes choses. Alors, ce n'est pas une formule magique. C'est-à-dire que tout ne va pas s'arranger vite. Des fois, c'est plus long. Des fois, ça prend très longtemps parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc, il n'a pas du tout le même timing que nous. Et puis, nous, on aimerait que ce soit rapide, tout de suite. Mais son timing n'est pas le nôtre. Par contre, le texte, il parle de toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prenez un gâteau. Prenez les ingrédients d'un gâteau. Si je prends du sel tout seul, c'est pas top. Si je prends des œufs crus tout seul, c'est pas top. Si je prends la farine toute seule, il me faut absolument de l'eau pour pouvoir respirer ensuite. Donc, prenez les ingrédients tout seul, finalement, c'est pas génial. Par contre, assemblé et cuit, ça devient un super gâteau. Et même pas cuit, des fois. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi, je lèche tous les plats que des gâteaux qu'Anis fait. J'adore ça. C'est trop bon. Mais en tout cas, mélanger ensemble, ça donne quelque chose de bon, alors qu'à la base, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Finalement, donc, Dieu ne dit pas que chaque ingrédient de notre vie est bon en soi, il dit qu'il sait cuisiner. C'est le top chef des top chefs. Il sait utiliser chaque chose que l'on vit, que l'on a dans notre vie, pour le tirer vers le meilleur pour nous. C'est ça qu'il faut voir. La souffrance, Dieu lui-même l'a vécue. Dans Jean 11, verset 35, avec Lazare, la mort de son ami Lazare. C'est le verset le plus court, hein, c'est un verset là. Jésus pleura. Point. Mais ça dit tout. Jésus n'a pas dit « Ne pleure pas, je vais réparer ça ». Non, il a pleuré avec eux, avec ses amis. Il pleure avec ceux qui pleurent avant de réparer quoi que ce soit. Dieu n'observe pas la souffrance depuis un balcon. Il descend dans la salle avec nous. Il n'est pas là-haut sur sa montagne, il descend dans la vallée avec nous. Donc c'est important d'avoir ces trois notions. C'est que la souffrance, de toute façon, elle existe et elle existera toujours. On la vit. Donc s'il y a un non-chrétien qui te dit « Mais pourquoi est-ce que je souffre ?» Parce que le monde est comme ça. Parce que si Dieu réglait tout d'un coup, ben finalement, on serait juste des pantins, on serait juste des robots, tout serait parfait, et puis voilà, quoi. Il ne se passerait pas grand-chose. Finalement, on est d'accord, on dit toujours que c'est dans la souffrance, dans l'épreuve qu'on grandit, qu'on apprend, etc. C'est en se trompant. Moi, au boulot, le nombre de jeunes dont je m'occupe, et je leur dis, mais t'inquiète pas, si tu te trompes, n'aie pas peur, c'est pas grave. Bon, tu me le dis, n'hésite pas à me le dire. Des fois, il y en a, ils n'osent même pas le dire. Alors qu'on leur a dit 20 fois, dis-le-moi. Ils n'osent pas le dire. Et donc, on le découvre trop tard. Et là, ça devient catastrophique. Mais s'ils l'avaient dit au début, mais c'est pas grave. On apprend. Tu apprends. Et c'est comme ça que tu vas savoir que la prochaine fois, ben, tu ne feras pas de la même façon. Tu feras mieux. Il y a un écrivain français, je crois que je l'ai mis, Paul Claudel. Il est membre de l'Académie française. Il a écrit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. » J'aime bien. J'ai rien lu d'autre que de lui. Hein. Je suis tombé là-dessus, en chantant dans mes recherches. Je vous l'avoue tout de suite, mais j'aime bien. Il est venu remplir de sa présence. Nos joies, nos souffrances, peu importe. Et je ne sais pas vous, mais on a bien souvent plus de facilité à faire appel à Dieu quand on souffre que quand tout va bien. On est souvent là à appeler, à faire « au secours », alors qu'on pourrait l'appeler, on pourrait lui être intime avec lui quand tout va bien. Alors un dernier exemple par rapport à la souffrance. Et puis Jean, ça va lui parler. Un chirurgien, quand il doit ouvrir quelqu'un, quand il doit réparer quelqu'un, entre guillemets réparer, ou qu'il doit changer, je sais pas, n'importe quoi, un os à l'intérieur pour mettre une prothèse à la place, mais avant de pouvoir faire ça, il faut qu'il l'ouvre. Et nous, pauvres gens normaux qui ne sommes pas dans ces salles d'opération, on trouve ça horrible. Certains d'entre nous, rien que de voir ça, se sentent pas bien, etc. Et on se dit, ah, mais c'est horrible, c'est de la souffrance. Oui, mais il est obligé de passer par là pour que la personne guérisse. Si on doit enlever une tumeur, il faut bien passer par là pour aller chercher la tumeur et la retirer. Donc on ne juge pas un chirurgien sur la douleur immédiate liée au bistouri, heureusement. Sinon, il n'y aurait plus de chirurgien. On le juge par rapport à son intention et sa compétence. Et Dieu, il demande la même confiance. Mais elle est appuyée sur le bistouri qui a été la croix. Et elle prouve son intention. son intention réelle envers nous. Alors maintenant, on va passer à une autre question, un autre pourquoi. C'est pourquoi personne, la personne pour qui je prie depuis si longtemps, ou moi-même, n'est-elle pas guérie? Ça, c'est le pourquoi le plus difficile. Moi-même, je me le suis posé, je me le pose de temps en temps, je me dis, oh, je serais quand même mieux si je n'avais pas ci, pas ça. Au quotidien, ce n'est pas forcément facile, mais ce n'est pas grave. Et finalement, c'est un peu comme on a l'impression qu'on appelle Dieu et puis que ça ne répond pas comme on voudrait. C'est le SAV, on lui demande de changer la machine et puis finalement, il nous dit, oh, maintenant, apportez la machine, on va faire une réparation et tout, et toi, tu n'as pas envie de bouger. Tu veux juste qu'il vienne, le livreur vienne chercher la machine et que tu n'aies rien à faire. Et que... Donc, tu n'as pas la réponse que tu voudrais. Bah oui, mais c'est pas grave. Paul lui-même, il a connu ça. Dans 2 Corinthiens... Hop, je ne l'ai pas mis. Si. Non. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Il m'a été mis une écharde dans la chair, pardon, et je saute. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de s'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Donc l'apôtre Paul qui a ressuscité des morts, qui a guéri des estropiés, prie 3 fois pour lui-même et n'est pas guéri. On se dit c'est injuste. On se dit il y a un truc qui ne va pas, c'est quand même bizarre. Et Dieu, il n'a pas répondu non. Il n'a pas répondu je ne te guérirai pas. Il lui a juste expliqué j'ai quelque chose de plus grand à faire à travers ça. La grâce et pas la guérison. Devient ici la démonstration de la puissance de Dieu. Un autre exemple, c'est Habacuc. Habacuc, lui, c'est le modèle de prière le plus honnête de la Bible. Il commence au début de sa prière, dans Habacuc 1, verset 2. Il commence en colère. « Jusqu'à quand, Éternel, crierai-je sans que tu écoutes ?» Ensuite, pendant 2 chapitres, il argumente. Et termine sans que rien n'ait changé dans sa vie. Rien, en tout cas, rien dans sa vie, rien dans sa situation. Et il termine par « Car le figuier ne fleurira pas, les breuries manqueront dans les bergeries. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. » Si vous regardez, j'ai changé. Là, ils se questionnent, ils sont tristes, ils s'interrogent. Là, ils ont le sourire. « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, peu importe ce qui m'arrive. » Peu importe ce que je vis, toutefois je veux me réjouir en l'Éternel. Alors là, il ne se réjouit pas parce que ça s'est arrangé. Ça ne s'est pas arrangé. En tout cas, pas comme il le voudrait. Ça ne s'est pas arrangé. Mais il se réjouit malgré ça. Ça, c'est la vraie foi. Pas le déni, c'est pas le mensonge sur la douleur. Il souffre, c'est clair. Mais lui, il garde la foi, même si le SAV ne lui répond pas comme il le voudrait. Ou ne lui répond pas du tout. Des fois, on a l'impression que Dieu est muet et qu'il ne se passe rien. Il faut qu'on revienne à l'exemple d'Habacuc. Peu importe, le figuier, il peut ne pas fleurir. Peu importe, Seigneur, je me réjouis. Et c'est ça, en fait, quand on n'a pas, des fois, on a la guérison tout de suite. C'est un miracle. Des fois, ça prend du temps. C'est une guérison. Et des fois, ça se passe pas. En tout cas, pas comme on aimerait. Et on attend, et on attend. Et pour certaines personnes, ça se passe au bout de nombreuses années. Peut-être à partir du moment où ils ont compris quelque chose. Il y a eu un déclic dans leur pensée, dans leur cœur. On ne sait pas. Mais Dieu le sait. Et je pense que vous savez, comme moi, comme toute chose, il y a un moment donné où il faut qu'on repose notre confiance en Dieu, tout simplement. La dernière question, vous la connaissez tous aussi, c'est pourquoi Jésus est-il mort pour moi? Alors là, on change de registre, c'est plus pourquoi la douleur existe, c'est plus pourquoi quelqu'un a choisi, mais c'est plutôt pourquoi quelqu'un a choisi la douleur à ma place. C'est le pourquoi qui a une réponse totale, claire et non voilée. Dans Romains 5, verset 8, je ne l'ai pas mis. Alors je vais arrêter là, les slides. Mon Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour envers moi de ce que, même quand j'étais pécheur, même quand je faisais des bêtises, même quand je mentais, même quand je volais, pour certains, même si j'ai tué quelqu'un, etc., Christ est mort pour moi. Le texte insiste lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas après que ce soit corrigé, c'est avant. Il n'a pas attendu qu'on ait une bonne conduite, il a payé avant même qu'on ait fait des bêtises. Cherchez le mot. Jean 3, verset 16, vous le connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle, ne périsse point et ait la vie éternelle. Et si on regarde 700 ans avant, c'est Ésaïe qui écrit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtres sûrs que nous sommes guéris. Ce que j'aime bien, c'est que ce verset, il répond en écho aux deux premiers pourquoi du message. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi le monde souffre? Pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi est-ce que je ne suis pas guéri? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ésaïe 53, 5. Jésus n'a pas choisi la facilité parce qu'il devait répondre à la loi qu'il avait lui-même donnée aux hommes et ne pouvait pas s'y soustraire. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu vrai. Il avait posé une loi avec des sacrifices qui devaient être faits. Il s'en est pas soustrait, il aurait pu. Hein. Finalement, on se dit toujours, mais pourquoi est-ce qu'il a été jusqu'à mourir sur la croix? Il aurait pu, c'est Dieu Tout-Puissant, donc il décide, il fait un claquement de doigts et tout est réglé, et problème réglé. Non, c'est parce qu'il avait posé quelque chose et il ne voulait pas s'y soustraire. Et il voulait aller dans la continuité. Et ça, c'est important. On a un Dieu qui est fidèle, qui est vrai. Il a payé pour répondre à tous nos pourquoi. Et si nous n'avons pas de réponse, sachons que des Job, que des Paul, que des Habakkuk, eux-mêmes n'ont pas eu de réponse. Donc si tu as des questions dans ta vie et tu n'as pas la réponse à ton pourquoi, dis-toi qu'avant toi, il y en a eu des grands. On dit grand, grand dans la foi et qui n'ont pas eu la réponse non plus. Ils n'ont pas eu toutes les réponses. C'est pas grave. On aura toutes les réponses là-haut. Une fois là-haut, on aura toutes les réponses. Dans le plus de temps possible, hein, bien entendu. Ça me va très bien. En tout cas, s'il y a une réponse pour tout, un début de réponse pour tout, il est là. C'est la croix. C'est le sacrifice de Jésus. Il a tout payé pour tout, pour nous. Donc si tu as un non-chrétien qui vient te voir, qui te pose des questions, ne fuis pas. Si tu as des enfants, demande-leur s'ils savent pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à l'église, à l'école du dimanche, on a parlé de tel personnage? Pourquoi est-ce que ce personnage, il a vécu ça, il a fait ci, il a fait ça? C'est hyper important. Sachons que nos enfants, on peut les perdre s'ils n'ont pas le sens de ce qu'ils font. Si toi, tu as des pourquoi dans ta vie, n'hésite pas à poser des questions à Jean et Marie-André en premier et en deuxième. Je rigole. Je vais nous voir aussi. Si c'est des pourquoi faciles, venez nous voir. Mais c'est hyper important. S'il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'avancer dans ton chemin avec Dieu, ne les laisse pas te bloquer. Un pourquoi ne doit pas être un lien qui te retient à ton passé, qui te retient pour avancer. Ça doit être au contraire, une marche de plus pour aller plus loin. Amen. Je vais finir avec ça. 1 Pierre 3, versets 15 à 16. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à le défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Donc si on vous demande de justifier, pourquoi ? Pourquoi t'as le sourire tout le temps ? Jean, on lui a posé la question, mais pourquoi quand t'es là, l'ambiance est meilleure au boulot ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que toi, tu réagis pas comme moi quand il se passe ci, quand il se passe ça ? Eh bien, soyons prêts à le défendre. Et puis des fois, c'est des pourquoi qui peuvent être un peu piquants, très piquants. Mais soyons prêts aussi à y répondre. Avec humilité et respect. C'est pas tout le temps facile. Des fois, on a envie de répondre à un pourquoi parce que... Et puis c'est tout, si t'es pas content, va voir ailleurs. Mais il faut pas qu'on soit comme ça, nous. Parce qu'on sait quelle est la réponse ultime. Amen. J'avais d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Je voulais pas... Voilà, il y avait ce pourquoi qui me travaillait beaucoup. J'ai pas fait tous les pourquoi qu'on pourrait avoir, sinon on y est encore dans 10 ans. C'était juste quelques exemples pour essayer de faire quelque chose déjà. Mais j'espère que ça vous parle et surtout que ça va devenir du concret dans vos vies, qu'on va voir des gens venir vers vous, que vous allez voir des gens venir vers vous pour avoir des réponses. Et que vous allez avoir conscience que si c'est pas la réponse à laquelle vous attendiez, c'est pas grave. Je vais finir juste par un dernier témoignage, mais je crois que je l'ai déjà dit, donc je radote, c'est pas grave. C'est quand mon beau-frère et ma sœur sont venus s'installer, ils sont partis de la région parisienne et ils sont venus s'installer à Saint-Malo. Et leur couple allait très mal. Et à ce moment-là, toute la famille Foisil ont prié. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de lui rentrer dedans, mon beau-frère, etc. Et j'avais, j'étais sur mon âne avec comme Don Quichotte, sur mon destroyer, j'étais prêt à aller au combat. Et puis, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais osé. Mais c'est très bien, merci Seigneur, il m'a gardé. Il nous a gardé, je pense, dans notre relation aussi. Et finalement, en arrivant à Saint-Malo, on se disait, oh là là, il quitte le cocon, il y avait toute la famille en région parisienne. Et on s'est dit, oh là là, mais est-ce que ça va pas aller mieux, etc. Et puis finalement, avec son travail, mon beau-frère, il a été amené à aller à Paris régulièrement et aller dans une autre église que celle dans laquelle il est d'habitude. Et en fait, un dimanche matin, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu seul le sait, il est tombé à genoux. Changement radical dans sa façon de penser, dans sa façon de dire. Et c'était mais plus du tout le même beau-frère. C'est impressionnant le changement. Dieu l'a cueilli à un moment donné, c'était le moment. Mais ça a duré, hein, entre le moment où ça a commencé à aller mal entre ma sœur et mon beau-frère. Et ce moment-là, ça a duré. Et nous, en tant que chrétiens, on se dit, mais mince, je prie, j'intercède, Seigneur, je donne tout ce que j'ai. Il ne se passe rien, mais on veut que ce soit maintenant. Et c'est juste que Dieu, il avait son plan. Il avait prévu pour que la transformation, elle ne se fasse pas juste la moitié ou juste un quart, mais qu'elle se fasse complètement. Et il l'accueillit au bon endroit, au bon moment. Et ça a été radical et ça a complètement changé leur vie et leur couple. Et ça fait 16 ans que ça dure, là, encore plus. Enfin, 16 ans en plus de ce temps-là. Donc Dieu est bon, Dieu est juste et il sait ce qu'il fait. Donc voilà, des fois, vous inquiétez pas, vous attendez, vous avez comme moi envie d'être sur votre âne là, avec la grande lance là et d'aller tuer du géant. Voilà, patientez. Et Dieu fera les choses parfaitement. Amen. Amen. Eh bien Seigneur, merci. Merci pour qui tu es déjà. Merci pour tes réponses à toi, pour nos pourquoi. Pour tout ce que l'on vit, de bien ou de mal, Seigneur, tout ce qu'on voudrait qu'il se soit autrement, Seigneur, on veut nous reposer en toi, Seigneur. Et Père, je te prie pour que chacune et chacun d'entre nous, on prenne conscience que Tu es tellement un Dieu qui nous veut du bien, Seigneur, que tu fais les choses à ta manière, dans ton temps, Seigneur, pour que ce soit parfait. Et que tu ne répondras pas forcément comme on voudrait que tu nous répondes, Seigneur, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on a confiance en toi. En tout cas, nous décidons, et moi je décide aujourd'hui, que j'ai confiance en toi, que je veux avoir confiance en toi, encore plus dans plein d'aspects de ma vie, Seigneur. Et Père, je te prie vraiment pour que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre assurance, dans notre espérance en toi, Seigneur. Pour tout ce que tu vas faire pour nous, mais aussi pour ce que tu vas faire autour de nous, Seigneur. Et je pense à celles et ceux qui ont des enfants qui sont éloignés de Dieu, à celles et ceux qui ont leur corps, qui les fait souffrir. Et bien, Père, je te prie vraiment pour que tu nous donnes la clé. La bonne façon de prier aussi des fois, Seigneur. La bonne façon de dire les choses, de proclamer les choses, de déclarer les choses, pour que ça ait un impact dans le ciel et aussi sur la terre, Seigneur. Alors merci pour chacune et chacun d'entre nous, pour ce que nous allons avancer encore plus avec toi, passer à de nouveaux paliers, grandir dans ta foi, Seigneur. En toi. Amen. Amen. Amen.